je suis vraiment content d'enregistrer en personne. Parce que d'ailleurs, les deux derniers épisodes, on les a enregistrés à distance avec nos invités. D'ailleurs, que je remercie Sofiane et Camille. C'est pas nécessairement l'idéal, mais c'était vraiment parce que là, en fait, Thomas est de retour avec nous. Mais là, Thomas est fatigué. Il est pas bien aujourd'hui. Il est pas en forme. Donc, il parlera pas trop là, aujourd'hui. Mais je suis vraiment content d'être de retour en live. Puis on reçoit M. Gagnon-Ouellette.
Allô!
Ça va bien?
Vraiment bien, c'est une belle journée aujourd'hui.
C'est vrai qu'il fait vraiment beau, on est vraiment dans une belle saison. On est un peu vraiment dans une température très printanière.
Quoique, il a neigé un peu hier.
C'est vrai qu'il a neigé, il faisait froid. Même, en fait, même aujourd'hui, il fait spécialement froid, mais on sent le printemps. Et d'ailleurs, le printemps, ça va être pas mal ça qui va teinter ma question déjeuner. Parce que ma question déjeuner, ça va être sur le temps des sucres.
Oh là là!
Et tu dirais que ça serait quoi ton produit préféré relié un peu au déjeuner qui est lié à la saison des sucres?
Ah, c'est un tough one, parce que j'irais peut-être avec juste des œufs dans le sirop que mes parents faisaient, comme parce qu'on achetait des cannes de sirop. Mais si on va à cabane à sucre, mais toi, t'es un peu genre bang dans le sirop, puis tu te dis, ah, ben tout est bon, mais encore des crêpes, je pense, avec du sirop. Ben tout avec du sirop, en fait. Mais on fait juste en mettre plus, parce qu'on vient d'en acheter une grosse quantité, fait que... Mais les œufs dans le sirop, c'est parce que mon père me disait le matin, à combien tu veux deux? Puis là, ça, il en faisait. Puis là, souvent deux. Puis à l'époque, puis il mettait ça dans le sirop, puis c'était nice.
OK, parfait, c'est les œufs dans le sirop.
Ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que tout est bon dans le sirop. D'ailleurs, un secret, là. Si vous allez à la cabane à sucre, peut-être plus en après-midi, là. Mais si vous avez une bière, comme une bière très, très claire, mettons une blonde, mettons une tremblée, n'importe quoi. Mettez un peu de sirop d'érable là-dedans. Ça goûte comme du 7-Up.
Ah ouais?
C'est vraiment bon.
J'ai essayé, c'est drôle.
Ouais, mais bref, en tout cas, on est tous passés par là dans nos vies. Mais en fait, ceux qui sont sûrement à l'université. Mais bref, on va continuer. Julien, la dernière fois que tu es venu, avant même que tu te présentes, je vais te demander, parce que souvent ça va être à te présenter, tu es un bon voyageur. La dernière fois que tu es venu nous parler de vélo, justement, puis là tu reviens encore, mais tu nous avais un peu parlé de tes péripéties qui sont liées au voyage en vélo. Uh-huh. Et je me demandais si, depuis que tu es venu, si tu en avais eu d'autres, des péripéties.
Ouais, c'est ça. Dans le fond, la fois que j'étais venu, c'était en décembre, il y a un an et demi environ. Puis l'année passée, en mars 2022, je suis parti avec un bon ami, Jacques. On partait tous les deux faire un beau voyage partant de la Grèce pour aller faire tous les Balkans, 2 mois et demi, on avait bien planifié, on avait comme regardé pour la COVID à l'époque, il y avait la guerre en Ukraine qui commençait, on s'était dit, ah, c'est pas si grave que ça.
Puis finalement, ça va se calmer.
C'est ça. Puis finalement, ben, on arrive, transfert d'avion, blabla, on arrive à un petit Airbnb au centre-ville d'Athènes. Puis on s'installe, on barre nos vélos comme sur une balustrade à l'entrée. Puis on avait vraiment spécifié, ah, est-ce que c'est sécuritaire? Puis les personnes du Airbnb nous avaient dit oui. Puis là, on va dormir parce qu'on est crevé, décalage horaire, 4 jours. Puis le lendemain, je pars faire des courses pour le petit déjeuner. Puis quand je reviens, j'avais même pas vu à l'aller, mais quand je reviens, je vois juste les restants de cadenas. Puis là, je suis comme, no fucking way, ça peut pas être possible. Finalement, oui, je remonte 5 étages au lieu de 3, j'étais tellement en panique. Je dis à Jacques, on s'est fait voler nos vélos. Il dit quoi? Non. Je suis comme, oui, on s'est fait voler nos vélos. S'ensuit une chasse.
Attends, avant que tu continues, parce que là on explique, là, c'est que tu partais en vélo pendant 3 mois.
Ouais, environ.
Dans un vélo, un voyage en cyclotouriste.
Ouais, exactement.
Tout était prévu en vélo. Puis après, quand même pas 12 heures, tu t'es fait voler ton vélo.
C'est ça. Fait que la première nuit, on s'est fait voler notre vélo.
C'est
là, ce
qu'il
faut
drôle.
Savoir, c'est que
drôle.
Athènes est quand même une ville charmante, mais t'as comme des coins qui sont un peu crackhead, qu'on peut dire. C'est avec des gens qui sont toxicomanes. Puis on s'est aperçu le lendemain que, dans le fond, notre rue, Komundoro, pour ceux qui savent, mais c'est à côté du Théâtre National. Mais c'est là qu'il y a plein de gens qui ont des pipes à crack, puis des seringues, puis qui se piquent, puis ils fument du crack à longueur de journée.
Mm-hmm.
C'est pas un coin recommandable qu'on a su par après.
Mm-hmm.
Puis ça avait pas l'air comme ça sur les photos de Airbnb. Anyway, c'est ça. Fait qu'on est resté un autre 2 semaines. On a cherché. On a même mis des rewards, des récompenses pour ceux qui pourraient trouver le vélo 300 euros. Mon vélo vaut vraiment plus que 300 euros, vaut 3 000 $. Mais on se disait.
Pour un vélo que t'as monté toi-même.
Ouais, c'est un vélo.
Pour toi.
Ça fait 3 ans et demi, je l'avais bichonné. Je venais de faire beaucoup de changements. J'avais mis des bonnes pièces dessus récemment. Moi, j'ai une grosse affection pour mon vélo. Ça m'a vraiment brisé en deux. Surtout que c'est pas juste le fait d'être fait voler, évidemment. Mais quand je vais être de retour, je vais pas avoir mon bon vélo.
Mais ça n'a pas fini là. Parce que là, justement, là, vous êtes resté à Athènes. Après, vous avez un peu voyagé.
Ouais,
juste de
on
même.
A continué à
vous
faire notre voyage.
On
s'est séparés. Moi, je suis allé à Helsinki parce que j'aime faire les pays d'Europe du Nord pour leur côté cyclable. Puis j'allais voir un très bon ami en commun, d'ailleurs, qui s'appelle Victor, qui était là. Puis il me dit « Ah, ben viens-t'en », il m'a un peu réconforté. Puis la journée après que je suis allé là, j'ai reçu une nouvelle. Quelqu'un m'avait écrit « Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé ton vélo. » Je suis comme « Oh, shit! »
C'est quoi les chances?
J'en sais rien. Sincèrement, là, j'étais sur le point de plus chercher, de plus y croire. Tu sais, après avoir regardé je sais pas combien de vélos dans les Kijiji de Grèce. Puis j'ai le contact, puis c'est vraiment mon vélo, genre. Puis, sincèrement, c'est la journée la plus incroyable de ma vie. Incroyable, je jure. Puis là, les gens vont peut-être pas me croire à la maison, mais la personne s'appelle Dimitri. Genre, mon ange gardien, c'est vraiment comme la meilleure personne au monde. L'a retrouvé. Puis mon ami Jacques avait encore son vélo volé. Fait qu'il a demandé à Dimitri est-ce que je pourrais avoir le numéro du voleur. Puis il a envoyé des photos de son vélo à Jacques. Puis les gens vont pas me croire, mais Dimitri a aussi trouvé le vélo à Jacques. Avec les deux vélos ont été retrouvés.
Les deux vélos. Combien de temps après, ça a pris c'est combien de semaines?
Un mois pour moi, exactement 30 jours.
30 jours plus tard, tu as retrouvé
puis
ton vélo.
34 jours plus tard pour le vélo, 35 jours plus tard pour le vélo de Jacques.
Donc, toi, tu es retourné à Athènes.
Ouais.
Tu as donné la récompense.
Ouais, j'ai donné... Il a racheté le vélo à 150 euros. Puis, je lui ai donné un 150 euros pour ses bons services de Samaritain. Puis il m'a même gardé une boîte pour l'empaqueter pour le retour à Montréal. Fait que c'est beau de dire.
Wow. Puis t'as encore ce vélo-là.
Ah oui, j'ai encore ce vélo.
On va mettre
vélo-là.
Une photo d'Instagram.
Ah, c'est bon.
On va mettre une photo de ce vélo.
Qui s'appelle Archie. Je nomme mes vélos. Puis ça s'appelle Archie. Fait que voilà.
Ah, donc, une grande péripétie quand même. De
une épopée.
Partir en vélo, se faire voler 24 heures plus tard, le retrouver 30 jours plus tard dans une autre ville en Europe, c'est quand même... c'est quoi les chances?
Si je peux dire, j'ai fait 2 semaines de vélo au Péloponnèse, qui est comme une péninsule de la Grèce. C'était vraiment très chouette.
Oui.
Je suis revenu à Montréal, puis c'est ça.
Je suis vraiment content que tu aies utilisé le terme Péloponnèse. C'est un terme très grec, mais c'est aussi un terme très historique. D'ailleurs, la guerre du Péloponnèse, qui est la grande guerre entre la ville d'Athènes et Sparte. Bref. Mais parfait. Merci de cette histoire-là qui est toujours
aventure.
Fidèle.
Je vais te dire une chose. Moi, j'ai la malheureuse ou heureuse habitude d'avoir des énormes aventures en voyage. J'ai jamais rien de simple qui arrive.
Oui, c'est ça. C'est autant été malchanceux, mais chanceux incroyablement dans cette histoire-là. Je me rappelle, tu m'as appelé durant ces moments-là.
Ah ouais, j'étais pas bien.
Et à chaque fois, j'étais comme, quand même, c'est incroyable.
Exactement. Voilà.
Mais là, là, on est au printemps. Là, tu viens de finir ta saison d'hiver.
Ouais. Si, en fait, par rapport à l'hiver, si je peux me permettre une petite question à notre cher... notre cher animateur Paul, est-ce que toi, parce que j'avais donné plein de conseils de vélo d'hiver le dernier podcast, est-ce que toi t'as pu essayer un peu?
Ben, écoute, d'ailleurs, on va le dire, tu m'as même donné un vélo d'hiver.
Prêter
un vélo d'hiver. J'ai essayé ça. Ça s'est relativement pas bien passé. J'explique. En gros, c'était. J'ai trouvé ça super, en fait, relativement facile. Je crois que quand tu as un bon vélo, même, les fois que je les ai utilisés, en fait, les pistes cyclables étaient déneigées, ça se passait bien. T'sais, j'ai jamais eu à traverser une grosse tempête. Par contre, j'ai eu plusieurs bris mécaniques qui ont fait que j'ai pas énormément utilisé. Cela dit, j'ai trouvé ça moins pratique pour le fait de toujours s'habiller beaucoup et tout. Mais cela dit, ça s'est relativement bien passé. Puis même le froid... C'était vraiment pas si pire que je le pensais.
Ben, je suis content d'avoir de ton impression. Par ailleurs, j'ai pas prêté mon meilleur vélo.
Ouais.
c'est là, va sans dire. J'ai gardé le meilleur pour moi. Mais c'est ça. Fait que je suis conscient que... Mais même si c'était un bon vélo, il y a souvent des petits problèmes mécaniques. Alors, si ceux qui veulent se mettre au vélo, aller voir sur des sites ou des mais, conseils.
Mais moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien quand même. Tu sais, ça allait bien. Puis ça m'a impressionné à quel point il y a beaucoup de monde qui font, de plus en plus de monde, qui, surtout à Montréal, qui font énormément de vélo. À Montréal, l'hiver. Tu sais, maintenant, c'est vraiment plus deux, trois.
Hurlu-berlu.
Hurlu-berlu, c'est un bon terme. Mais tu sais, c'est vraiment. De plus en plus, là, c'est en train de devenir presque une norme là, pour certaines personnes. C'est exactement. Vraiment plus étonnant, quelqu'un qui se déplace en vélo.
Mais c'est vraiment ça qu'on recherche dans l'instigation. Il y a peut-être deux frontières ou deux trucs qui limitent beaucoup le vélo en général. C'est la première, l'hiver, que les gens se disent c'est insurmontable, mais merci du témoignage, ça ne l'est pas. Puis la deuxième, c'est souvent les distances puis des quartiers qui sont... plus excentré. Alors, puis là, qu'on cherche à en désenclaver, puis j'en parlerai plus tard dans le podcast.
Ben, merveilleux. Et écoute, là, justement, peut-être les gens commencent à comprendre avec quoi le thème de l'épisode. On va parler de vélo, en fait. On va parler du cyclisme, de la vélorussion, de plein de choses. Mais avant tout, avant qu'on continue, j'aimerais ça que Julien, peut-être tu te présentes pour les gens qui... C'est sûr, tu es déjà venu au podcast, mais là, c'est la deuxième fois que tu vois. Peut-être aussi tu ne travailles pas pour les mêmes organismes ou quoi. Présente-toi rapidement, qui es-tu?
Je suis d'abord un citoyen et en second engagé. Puis ce que je recherche, c'est vraiment de créer des synergies puis des dynamiques pour une meilleure cyclabilité ou un meilleur réseau cyclable à Montréal puis au Québec. Puis je fais partie d'une dizaine d'initiatives que je m'implique plus ou moins. Mais celle que je m'implique le plus, c'est vraiment des ateliers vélo communautaires, donc pour apprendre et autonomiser les citoyens dans leur mécanique vélo. Puis j'en parlais plus loin, mais aussi d'autres initiatives de balades manifestives ou balades de vélo qu'on fait à travers la ville ou autre pour éduquer, mais aussi avoir une certaine cohésion dans le milieu cycliste pour une meilleure... cyclabilité.
Oui. Bon, ben parfait. Et justement, ben, on va tout de suite y aller à notre première question, le premier thème un peu de notre discussion aujourd'hui. C'est souvent les gens pensent que le vélo n'est pas très efficace. Pourtant, ce l'est. J'aimerais qu'on parle de plusieurs points ensemble, qu'on s'est mis d'accord. La première chose, c'est les gens pensent que peut-être c'est pas sécuritaire le vélo.
C'est ça. Dans le fond... j'ai commencé par dire que dans le débat actuel, ça oppose souvent vélo contre auto, mais c'est vraiment pas juste ça. C'est vraiment plus la sécurité des uns contre la fluidité des autres. Puis la fluidité de l'un arrête là où est-ce que la sécurité de l'autre arrête. Commence, je veux dire. Puis l'idée, c'est vraiment de dire « Ah, ben il y en a qui militent pour avoir le droit de vivre, puis l'autre qui disent « Ben nous, on va conserver... » notre droit à se déplacer n'importe où, n'importe quand. Puis c'est vraiment dur parce que n'importe quel changement déroute les gens, puis c'est vraiment compréhensible. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que si on délaisse un peu la sécurité, les routes ne sont pas conçues pour être sécuritaires, mais ça fait un peu des accidents comme ce qui s'est passé avec la petite Maria, malheureusement, parce qu'elle allait simplement à l'école à quelques coins de rue. Puis il y a quelqu'un, à place d'utiliser un tronçon qui était un artère comme Delorimier, pour expliquer, c'est une petite fille qui allait à l'école, puis elle se promenait dans des rues résidentielles, puis il y a une auto qui a été la percutée, puis elle est morte de ses blessures, ce qui rend dommage.
D'ailleurs, ben, c'est pour que les gens se rappellent bien, là, c'était la jeune fille ukrainienne, réfugiée ukrainienne, qui avait la famille avait quitté, la mère et les enfants avaient quitté l'Ukraine, en fait, pour fuir un peu la guerre. Et malheureusement, la petite fille s'est faite frapper en allant à l'école le matin dans une zone scolaire où la personne roulait bien au-delà de la limite de vitesse. Et elle a été, il l'a frappée.
Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'infrastructures, mais je voudrais aussi aller dans un autre sujet qui est en fait une tendance qui arrive, c'est que la sécurité, c'est un principe aussi physique. Où est-ce que plus un véhicule est gros, lourd... ben plus qu'il y a de chances de faire des blessures graves. Si tu as un véhicule avec un devant qui est plus haut, à place de te frapper les jambes, ce qui est vraiment dommage, ben ça frappe les organes internes. Mais en plus, il y a un plus grand espace empattement du sol, comme on appelle, puis tu peux te retrouver en dessous assez vite puis te faire rouler dessus. Fait qu'il y a beaucoup de SUV, pick-up, qui sont en fait des machines qui tuent dans les rues. Puis il y a une course... après ça, quelqu'un qui a aussi une petite voiture va se sentir en insécurité face à un plus gros véhicule à cause de son impact, de son poids. Ce qui fait en sorte qu'il y a comme toute une augmentation des grosseurs de véhicules en général. Puis ça amène une troisième chose qui amène une insécurité sur les routes, c'est la visibilité. Plus que ton devant est haut, je sais pas si parfois vous avez vu un peu les vidéos où est-ce qu'on peut mettre genre 10 enfants assis, un en face de l'autre, jusqu'à temps que quelqu'un dans un pick-up puisse voir la dernière personne. Mais ça fait beaucoup d'angles morts. Puis c'est vraiment ça, on avait parlé la dernière fois des camions. Mais les gens commencent à conduire des mini-camions qui sont en sorte que ça crée beaucoup d'insécurité sur les routes.
Oui, mais on l'a vu, ça, c'est plus un véhicule est gros, plus il est dangereux, moins il y a de la visibilité. Et c'est souvent, souvent les gens vont parfois acheter ces véhicules-là pour se sentir plus en sécurité. Mais en réalité, c'est que tu mets un peu la sécurité des autres en danger. Puis est-ce que c'est tant sécuritaire que ça? Ça peut se demander. Surtout en zone urbaine remplie, là, plus c'est gros, plus c'est dangereux.
Ouais, puis si je peux amener un autre point aussi, c'est que l'industrie, si on regarde, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber, mais j'ai vu une vidéo qui expliquait vraiment que l'industrie en Amérique du Nord augmente les véhicules, la grosseur des véhicules, puis en vendent de plus en plus parce qu'ils font du profit. Puis en Europe, c'est pas le cas parce qu'il y a des lois qui sont contre ça. Puis souvent, à la place de vendre une voiture qui serait peut-être familiale, c'est-à-dire avec l'arrière qui a plus d'espace, ou une mini fourgonnette qui est moins lourde, qui a plus de capacité, qui est plus pratique, qui est plus facile à manœuvrer, ben automatiquement, ils vont vendre quelque chose de haut sur pattes, plus de poids, qui sont moins confortables, puis moins... c'est utilitaire, mais il n'y a pas grand d'utilité là-dedans. Là,
non, c'est ça. Souvent, c'est... Donc, en gros, si on parle, par exemple, souvent les gens vont avancer le vélo, c'est pas sécuritaire. En réalité, ce qui est pas sécuritaire, c'est la prolifération de toujours les camions plus gros, les plus gros chars, les plus lourds, plus denses, moins bonne visibilité.
Puis là, si je peux rentrer aussi sur la fluidité.
Oui.
Mais moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a beaucoup de débats là-dedans. Puis je peux comprendre la grande frustration de ceux qui ont choisi un mode de vie qui permet pas la marche ni le vélo. Mais c'est comme un problème, c'est comme un serpent qui se mange la queue parce que les véhicules grossissent, puis il y a moins d'espace pour les stationnements, il y a plus de trafic. À ce qui paraît, si tu augmentes la grosseur des véhicules, tu as 10% plus de trafic juste avec des autos plus grandes qui sont souvent avec une personne. Puis l'utilité de transporter de l'épicerie ou des trucs comme ça n'est pas vraiment bien utilisée. C'est des véhicules qui sont faits pour être tout terrain, quatre roues motrices dans à l'extérieur des chemins battus. Les gens qui les utilisent, selon certaines études, ben, ils l'utilisent parfois à rarement les chemins qui sont plus utiles à ce genre de véhicules-là. Puis c'est ça. Puis dans la ville de Montréal, il y a 78% de l'espace public, de la voirie en fait, qui est utilisé pour les voitures. 22% pour les piétons, puis 1,5% pour les cyclistes. Fait que c'est souvent une question de perception des gens qui se disent « Ouais, mais là, on ne laisse pas trop d'espace aux cyclistes. » Mais en fait, c'est déjà une iniquité envers les cyclistes. Puis il y a aussi un 0,5% aux voies réservées pour bus ou des trucs comme ça. Mais alors, si on voulait vraiment être équitable, on pourrait avoir 25, 25, 25 dans le fond.
Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, on sait que c'est là, tu dis 80, près de 80% de la voirie, là on parle de la rue, de un peu l'espace collectif pour se déplacer est complètement destiné à la voiture. Et malgré ça, bon, on le connaît, la fluidité est assez mauvaise. Puis souvent, c'est que la réalité, c'est d'un point de vue collectif, de déplacement, de population, là, en fait, le véhicule individuel, même s'il y a plusieurs personnes dans le véhicule, et la façon de se déplacer la moins efficace pour tout. Et la plus coûteuse aussi, il y a un coût énorme.
C'est sûr.
On en a parlé beaucoup à l'épisode de Camille récemment, mais c'est la véhicule.
En moyenne, c'est 9500 personnes. Ça peut vraiment aller plus haut quand tu as des plus gros véhicules. Puis avec l'augmentation de l'essence, ça va encore plus haut. Puis ça, c'est en moyenne. Fait que si tu achètes un char de l'année, puis tu payes des mensualités, les assurances, etc., ben là, ça va devenir encore plus onéreux. Là. Puis c'est un deuxième char, c'est ça. Puis il faut se rappeler aussi qu'un char, c'est stationné environ 95% du temps.
Oui.
Fait pour 5% de son temps d'utilisation, tu payes quand même cher. Que mm-hmm. Selon moi, ça fait des gros trous dans le budget quand tu as deux chars puis tu es obligé. Mais c'est triste parce qu'il y a des gens qui sont obligés de l'utiliser. T'sais.
Ouais. Donc, justement, c'est en fait l'argument de la fluidité par rapport au vélo. Le vélo serait une possibilité d'être beaucoup plus efficace que par rapport à,
c'est
au
ça.
Véhicule.
Puis j'ai déblonné certains mythes avec des gens qui disent « Ah, mais le vélo, c'est ci » ou « Ah, le vélo, c'est ça ». Puis là, le principal truc qu'on entend, j'essaie d'en parler. Le premier, c'est qu'il n'y a jamais personne sur ces pistes.
Ah oui.
Est-ce que tu l'as déjà entendu, ça?
Oui, je l'ai. Ouais,
c'est
ça.
Ben, c'est souvent que la perception, c'est des perceptions trompeuses. Puis si on va chez EcoCompteur, on voit qu'à Montréal, ben, il y a une augmentation des personnes sur les pistes cyclables à chaque année. Mm-hmm. Puis même si tu mets une nouvelle piste cyclable, ben, ils vont pas prendre les pistes cyclables à côté, mais ils vont juste doubler le nombre. De cyclistes. Puis c'est vraiment « build it and they will come », fait construisez-les puis ils vont venir. Mm-hmm. C'est vraiment toujours ça. Puis en fait, c'est parce que c'est souvent une perception, parce que quand on voit le trafic, on a la perception des véhicules qui sont à l'arrêt puis des véhicules qui sont bloqués dans des bouchons de circulation. Mm-hmm. Mais le vélo est tellement efficace qu'il ne crée pas vraiment beaucoup de bouchons de circulation que tu ne vois pas nécessairement les passages. Mais si tu comptes réellement les passages avec, comme la firme EcoCompteur, plusieurs compteurs dans
ça, la firme EcoCompteur, pour que les gens le savent, c'est des comme compteurs qui calculent le nombre
exactement.
De vélos.
C'est ça. Puis là, récemment, il y a un article qui est paru dans un journal, puis qui disait en février 2022, puis février 2023, il y a une augmentation de 60% de cyclistes.
À Montréal.
En hiver.
À Montréal.
À Montréal. Ouais. À Montréal, en hiver.
C'est fou.
Fait que, juste pour dire, l'hiver, il n'y a personne. Les pistes... Deuxième chose, c'est souvent, les pistes sont toujours déneigées en priorité.
Ouais.
Mais non, c'est pas le cas. Il y a plusieurs raisons à ça. De un, c'est quand on déneige les trottoirs versus les pistes cyclables, ben, les trottoirs, ils ont beaucoup de... À chaque fois que tu descends un trottoir, mais ça prend une manœuvre des gens qui de la ville qui déneigent. Puis souvent, il va y avoir des poubelles, des détritus, des trucs, puis à chaque fois, il faut que tu passes à côté, il faut que tu fasses des manœuvres. Puis l'équipement aussi est beaucoup plus complexe à répartir. Puis quand tu utilises un équipement, en fait, pour les pistes cyclables, c'est comme ceux qui sont sur la route, fait que ça va vraiment plus vite. Pour mettre du sel, ça va vraiment plus vite, etc. Deuxième raison aussi, c'est que c'est en asphalte. Puis l'asphalte, ça attire les rayons de soleil, puis ça réchauffe la chaussée, qui souvent fait en sorte que ça dégèle, slash, ça dégivre la chaussée plus rapidement. Mais par expérience, pour moi, souvent je vais arriver, puis ça va être vraiment la priorité qui va être aux automobilistes. Puis même s'il n'y a pas de priorité aux automobilistes, souvent les autos vont faire des sillons, puis le prochain véhicule va pouvoir passer un sillon, etc. Puis ça fait un auto-déneigement, mettons, comme ça. Mais les piétons ne peuvent pas en faire ça, puis les cyclistes non plus. Fait que si tu as plus de 5 cm, je dirais que c'est assez pénible à pédaler.
Oui, puis je trouve que les gens sont vraiment de mauvaise foi là, quand ils disent à Montréal là, de dire « Ah, le trottoir, il n'est pas déneigé, puis la piste cyclable l'est tout le temps. » C'est pas nécessairement vrai. Puis comme tu l'as dit aussi, c'est que d'une part, ben c'est juste que les pistes cyclables se déneigent vraiment plus rapidement. Puis la réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de pistes cyclables que aussi. De trottoirs, que de rues.
Exactement.
Il y en a vraiment peu. Donc.
Exactement. Puis même là, il y a des c'est par arrondissement. Puis il y a des arrondissements qui font moins leur job. Puis parfois, c'est des sous-contractants. Puis là, après ça, ben parfois c'est la ville, parfois c'est un équipement plutôt qu'un autre. Fait que ça varie vraiment beaucoup entre les arrondissements, puis entre les endroits, puis selon les tempêtes. Puis parfois ils passent une fois, parfois ils passent deux fois assez rapidement. Puis c'est juste que c'est vraiment une question de perception. C'est comme dès que quelqu'un voit une injustice, il va se dire « Ah, voilà, il y a comme j'ai été brimé dans mon droit et l'autre qui a été favorisé.
Mm-hmm. »
Mais si on se remet aux chiffres, si on se remet à ça, aux statistiques, c'est vraiment le vélo qui est bon dernier. Là.
Ouais.
Mais il y a aussi un problème de déneigement en général à la ville, mais je salue tous les déneigeurs qui font un excellent travail.
Moi, je trouve que les gens chialent très, 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 très rapidement sur le déneigement. Là. Tu sais, je trouve Bref, là, je trouve que c'est un débat qui est souvent...
Si je peux te donner une petite anecdote, j'ai rencontré une personne qui travaille au 311, qui est le service de la ville, un peu des plaintes puis des problèmes qu'ils peuvent régler. Puis elle me demandait, mais pourquoi les personnes nous appellent autant pour dire que les pistes cyclables sont déneigées en priorité? Puis j'ai donné les mêmes raisons que je viens de donner. Puis elle dit, ah, mais je vais partager ça à mes collègues. Fait que c'est ça, parfois, pour répondre...
Ah oui, les gens
appellent en maudit. Elle m'a dit que ouais, c'est un des trucs qui appellent le plus durant l'hiver.
Ils vont dire, mon trottoir il n'est pas déneigé, mais la piste cyclable, oui.
Ouais.
Bon, ben c'est vrai. Écoute, les gens, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Hein? Est-ce que tu avais d'autres... moi, j'avais une question. T'avais-tu d'autres mythes à déboulonner? Parce que moi, j'en avais un par rapport au déplacement de matériel.
Ouais, mais j'en ai un autre.
Vas-y.
C'est, ça vient de revenir dans le débat public. Puis ouais. ça me gosse un peu parce que je trouve ça drôle. C'est que immatriculer les vélos pour que les cyclistes payent leur juste part. Moi, je trouve ça drôle. Juste part, ça me rappelle 2012. Puis genre, maudit, les étudiants payaient pas assez leur juste part. Mais tu sais, en fait, la première chose, c'est que les vélos, ça apporte beaucoup plus de bienfaits que n'importe quel autre point de transport, parce que l'exercice, etc., je ne vais pas revenir sur tous les petits détails, mais au niveau environnemental, sociétal et économique même. Mais en plus, c'est éprouvé encore, encore, encore et encore que si tu installes un n'importe quel système, puis encore récemment, des années genre 90-2000, des villes qui ont essayé d'instaurer un système, puis ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher que ce que ça rapporte.
Vous avez un système fait pour les voitures. Mais,
non, en fait, ça coûte plus cher instaurer un système d'immatriculation de vélo avec toute la bureaucratie que ce que l'argent que tu pourrais récolter de ce système-là.
Ouais.
Fait que si tu veux l'instaurer, moi, ça me dérange pas. Hein. Ouais. Ça va juste rien te rapporter au niveau argent.
Ouais.
Puis le but au départ, ça a été fait à moyen des années 70-80, puis ça avait été assez populaire. T'en vois parfois un peu dans les vieux vélos. Puis l'idée, c'était que les gens enregistraient leur vélo pour pouvoir enregistrer leur numéro de série pour s'il y a un vol, ils peuvent le déclarer. Mmh. Au final, les gens immatriculaient leur vélo, mais ils ne mettaient pas leur numéro de série. Ils revendaient le vélo, c'était compliqué, il n'y avait rien à faire. Fait que là, ça n'avait pas vraiment diminué le vol. Fait qu'ils l'ont laissé tomber. Si je peux me permettre sur le vol, vu que je me suis fait voler mon vélo, inscrivez-vous au système Garage 529. Ça marche. À Vancouver, ce sont les gens qui ont des vélos se sont inscrits. Puis ça peut se faire sur Internet. Après ça, tu peux acheter un collant puis le coller sur ton vélo. Puis ça diminue les vols de vélos à Vancouver de 40%. Puis c'est avec la STM, allez voir Garage 529, vous mettez des photos, vous enregistrez votre vélo, numéro d'immatriculation, numéro de série. Puis
ça,
si c'est-tu vous faites
le
voler.
Le même que le burinage qui vient du SPVM?
Ouais, c'est un nouveau système.
OK.
Plus efficace. Si tu dis vélo volé, il va tout de suite chercher dans les sites comme Kijiji des vélos similaires au tien. La police va le savoir, mais c'est surtout le plus important, c'est si vous l'enregistrez, puis la police fait une perquisition de centaines de vélos, ben là tu peux prouver que c'est le tien, puis c'est vraiment ça le problème. C'est parfois tu peux le retrouver, mais il faut que tu prouves que c'est le tien pour leur avoir. Puis ça aide beaucoup avec des photos, etc. Puis ouais, c'est ça. Puis là, alors ça, la juste part, ben moi, si je voulais que les automobilistes payent leur juste part, c'est prouver qu'ils payent un tiers de ce que ça coûte, les infrastructures. Fait ils peuvent payer leur plaque 5 000 $ pour payer genre l'entièreté du système, puis payer genre plus sur l'essence, puis ça coûte 2 $ le prix de l'essence. Puis moi, ça, je peux payer aussi une cotisation quelconque pour quelque chose. Mais si vous voulez, vous payez votre juste part, mais payez l'entièreté de votre part. Puis après ça, ben nous, on va faire aussi une partie qu'on fait déjà en payant des impôts. Puis qu'est-ce qu'on paye avec les impôts? Ben une grosse partie des routes que, vous utilisez. Fait qu'on est tous participent. Ben on est tous des acteurs de qui partagent la route puis qui payent la route. Fait que c'est inutile d'avoir un système encore pour nous faire payer davantage.
Oui, parce qu'en fait, dans le débat de l'immatriculation des vélos, en fait, les gens qui prônent ça, ce qu'ils veulent, c'est que les vélos payent plus parce que, par exemple, les gens vont dire « Moi, je paye des plaques de char pour payer les rues et le monde qui font du vélo, ils utilisent les mêmes rues. » Mais ils ne payent pas de plaque de char, pas de plaque d'immatriculation.
Ouais.
Mais la réalité, c'est que, ben de un, les infrastructures cyclistes coûtent ridiculement moins cher. On en a parlé au dernier podcast. Et c'est aussi que, ben de un, en fait, un parc cycliste n'a pas tant besoin d'entretien par rapport à un parc automobile qui s'endommage beaucoup plus rapidement.
Si je peux rajouter quelque chose, il y a le Creux Montréal qui a sorti une grosse étude sur les stationnements, puis on dit qu'une place de stationnement, c'est 1200, un stationnement sur rue, là, on s'entend, c'est 1225$ par année pour le déneigement, pour la propriété, pour tout ça, genre, en moyenne. Les gens qui payent des vignettes 300$ par année, ben, il faudrait que tu payes environ 1000$ de plus.
Ben, c'est ça. Donc, tu sais, dans le débat des immatriculations des véhicules, s'ils veulent jouer la game de chacun doit payer sa juste part, ben, ils vont payer beaucoup plus.
Ils vont payer beaucoup plus.
Donc,
Ben, en fait, c'est ça. Ils chargent sur le petit qu'on devrait défendre. Puis, il y aurait ça, le petit, il dit, ben, moi, je fais des bienfaits. Puis, vous ne prenez pas en compte toutes vos externalités négatives. On parle souvent comme ça. Puis, là, à ça, ben, tu sais, toute la pollution, l'insécurité que vous apportez, des choses comme ça. Puis, là, à ça.
Qui sont C'est tout ça. En fin d'étude, savez-vous, c'est qui les gens qui sont les premières victimes, entre guillemets, de la pollution automobile, c'est qui les premiers?
Dis-moi donc.
Les cyclistes. Ah, voilà. Les études qu'ils ont fait parce qu'ils sont directement dans le trafic en train de faire respirer. Une activité physique. Donc, c'est eux qui respirent le plus le carburant. les véhicules. Bref, mais c'est ça. Mais alors, l'immatriculation des voitures, donc, si vous voulez doublonner ce mètre-là, c'est pas une bonne idée. Là.
Ouais, non,
l'immatriculation des vélos.
Ouais, l'immatriculation des vélos, je le conseille pas.
Ouais. Et parfait. Là, moi, je t'avais fait une demande spéciale, justement. Je voulais que tu me parles du déplacement de matériel. Parce que moi, depuis longtemps, je pense qu'au Québec, on pourrait vraiment, surtout en zone urbaine, surtout à Montréal ou des grandes villes, par exemple, Sherbrooke, Gatineau, je sais que ça se fait déjà à Gatineau, à Québec, déplacer du matériel en vélo. Il y en a qui disent que c'est impossible, que c'est pas efficace. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
En fait, je suis pas d'accord parce qu'il y a des dizaines d'alternatives. Puis c'est souvent les gens vont. Ben, les gens, je veux dire. Quand ils voient ça, c'est sûr qu'un vélo, à la base, ça peut pas transporter grand chose. Quand tu regardes ça, c'est tout petit et tout. Mm-hmm. Mais il y a plein d'autres catégories qui peuvent faire l'affaire, comme des vélos cargo, qui ont quand même une bonne capacité, des remorques, faire l'autopartage, faire des livraisons. Tu sais, IKEA, je fais comme pas à chaque semaine. J'ai pas besoin d'une auto à chaque semaine pour aller au IKEA. Puis ils font des livraisons à peu de frais parfois, mais la fois, tu fais une livraison. Louer des voitures ou des camionnettes aussi. Si tu fais des petits déplacements, parfois posséder ou encore avoir une remorque, ça peut être avoir un vélo cargo ou posséder une remorque, ça peut être encombrant. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à Montréal puis partout dans le monde. Une remorque qui a été développée en France s'appelle K-Riol, avec un K-Riol. Ils ont fait une remorque électrique où est-ce que qui est couplé à ton vélo, puis la force que tu te donnes, c'est comme si tu n'avais rien en arrière. Fait que tout est pensé pour pas que tu puisses forcer. Ça marche très bien. Il y a plein de façons de déplacer des charges assez lourdes. Moi, j'ai petite anecdote personnelle. J'ai déjà été déménageur à vélo avec miette déménagement. On déplaçait un frigo, un poêle, trois meubles, puis probablement un matelas sur le dessus avec une remorque puis un vélo, puis aucun problème.
Puis vous n'aviez même pas d'assistance mécanique.
Aucune assistance électrique. Puis, comme je disais tantôt, c'est pour ceux qui veulent pas posséder ça, il y a vraiment une super initiative qui s'appelle Locomotion, de l'organisme Solon, qui est un organisme pour une alternative à la transition socio-environnementale. Et puis, leur initiative de Locomotion, c'est quoi? C'est dans 9 quartiers différents de Montréal, avoir par voisin, avec le voisinage, des remorques, des vélos cargo et des automobiles qui sont partagés. Pas besoin de posséder. C'est sûr, il faut que tu t'inscrives à la plateforme, puis il faut que tu sois dans l'arrondissement en question, puis il y en a juste 9. Mais ça permet quand même de dire, ah, j'ai une fois par mois besoin d'aller chercher de la terre pour mes semis. En ce moment, ça va être le cas peut-être. Où j'ai besoin d'un matériel qui est assez gros, mais tu te prévois d'avance, tu bloques pour une certaine période, tu vas la chercher, puis tu la remets à son emplacement. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que ça fait 3 ans, un peu plus que 3 ans que ça existe dans Huntsic, puis heureusement la petite patrie. L'année passée, il y a eu le plateau. Puis là, il y a 6 nouveaux arrondissements qui vont démarrer dès cet dès ce printemps.
Donc, fait,
voilà. Puis en plus, ils vont avoir des vélos cargo. Puis ils ont souvent des partages d'auto entre voisins. Fait que ta voiture qui est stationnée 95% du temps, bah, va peut-être l'être un peu moins.
Mais oui, puis tu sais, juste dans les vélos cargo, tu as parlé un peu du projet Carriole. Mais tu sais, moi, à un certain moment, je me suis intéressé à ce sujet-là. Et c'est fou comment on sous-estime à quel point on peut déplacer du matériel en vélo. Je regardais en Europe, il y a des compagnies de livraison qui se spécialisent à transporter des tablettes. Des tablettes, là, comme des grosses charges qui devraient se faire carrément avec des camions cubes qui le font en vélo maintenant, puis ça fonctionne très bien. C'est vraiment des modèles qu'on pourrait développer.
Exactement. Puis je suis sûr qu'on pourrait développer à plein d'échelles, dans plein de fonctionnalités. Même, tu sais, quelque chose d'un peu lourd comme de la bière. Tu sais, une microbrasserie, mettons, à Montréal, pourrait livrer uniquement avec un vélo cargo.
Oui.
Puis j'ai aussi parlé du projet Colibri qui permet à une redistribution du dernier kilomètre à vélo. À la place d'utiliser des camions, on distribue des objets à vélo dans le dernier kilomètre. Il y a beaucoup d'initiatives qui se créent à Montréal, mais partout dans le monde pour essayer d'apaiser nos villes et que ça soit plus convivial.
De toute façon, au centre-ville, tu vois beaucoup FedEx et tout. Ils sont déjà tout rendus avec des
Pure Later, les grandes compagnies, parce que même si tu engages
toute
une personne...
Toute l'année, même
l'hiver. Ouais, même si tu engages une personne qui a moins de biens à livrer ou de produits... ben ça coûte moins cher. Eux, tu sais, c'est capitaliste au final. S'ils se disent ça coûte moins cher, ils vont le faire.
Oui, c'est plus efficace.
Plus efficace. Parce qu'en ville, dans le centre-ville, les camions, c'est pas efficace.
C'est pas efficace. Donc, l'efficacité du côté des vélos.
Voilà.
Écoute, Julien, là, on a déboulonné quelques mythes. T'es aussi venu nous parler de projets futurs, du futur, des pistes cyclables au Québec et tout. Tu as aussi participé à des événements, des projets. Là, je voulais que tu viennes nous en parler. Le premier, je te lancerai un peu sur le colloque du vélo. Je sais que tu es allé à un colloque.
Ouais.
J'aimerais ça que tu m'en parles.
D'ailleurs, j'ai une petite anecdote parce que le colloque du vélo, c'est Vélo Québec qui l'organise. Puis là, avec la pandémie, ça a un peu amoindri. Mais là, ils l'ont relancé en grande pompe. Puis ils l'ont fait à Drummondville, qui est fait à 100 km de Montréal. Puis moi, je l'ai fait à vélo. Mais j'ai fait 130 km parce que c'est un peu déplorable, mais la façon la plus directe d'aller à Drummondville, c'est prendre la 20, l'autoroute 20. Puis il n'y a pas de place pour les vélos sur l'autoroute, puis c'est illégal. Mais j'ai dû prendre des petits détours, entre autres par la 116, puis c'était vraiment pas le fun.
C'était pas le fun.
La 116, c'est comme une semi-autoroute de deux voies à chaque bord. C'est sur l'accotement, t'as le droit, mais c'est comme...
Pas très sécuritaire non plus.
Non, mais t'as un assez large accotement, fait que t'es pas si proche des autos, il y a d'autres voix qui sont très proches des autos, mais là, c'est que t'es à côté des voitures, puis tu regardes des chars pendant le tiers du
truc. Ça t'a pris combien de temps de te rendre à Drummondville?
Aller 8 heures, retour 10 heures.
OK.
Puis j'étais légèrement chargé. Je conseille pas ça à tout le monde qui est débutant.
Ouais.
C'est une bonne ride. Mais c'est ça.
Mais parle-moi du colloque. C'était quoi exactement?
C'était vraiment bien. C'est sûr que moi, j'ai eu accès par rapport à... D'ailleurs, je remercie Vélo Québec parce que je suis acteur et citoyen engagé. Ils m'ont permis d'y aller de façon gratuite, ce qui ne m'a pas coûté... parce que ça coûte quand même quelque chose, le colloque. Puis il y a eu une grande... Bruno Marchand est venu faire le discours d'ouverture, d'ailleurs, que j'ai bien aimé.
Le nouveau maire de Québec.
Exactement. Flamboyant et tout. Qui est d'ailleurs en ce moment à une petite tournée en Europe, dont Helsinki. Puis il a dit dans les médias aujourd'hui ou hier, « Ah, on ferait prévoir la phase 2 du transport structurant sur la ville de Québec. » Là, je m'écarte un peu parce que c'est le dossier de Camille habituellement, mais ce qui est vraiment important, en fait, vraiment une avancée majeure à Québec, c'est le plan Vélocité. C'est comme leur plan rêve. Ils veulent faire des rêves... comme à Montréal, mais ils appellent ça Vélocité. Ils aiment ça donner des noms propres.
Pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'à Montréal, c'est le rêve, c'est le nouveau réseau...
Express Vélo.
Express Vélo, qui est comme vraiment une immense structure de déplacement.
C'est comme l'ossature de déplacement de vélo.
C'est des autoroutes à vélo qui sont très pratiques, qui sont très utilisées. Là, l'été, c'est complètement fou.
Puis l'hiver, c'est d'énergie.
Exactement. Ouais. Puis là, ils veulent faire un peu l'équivalent.
Vu qu'ils sont à Québec, ben, ils prévoient vraiment à l'avance, puis ils veulent vraiment faire des consultations. Fait qu'ils présentent genre déjà un beau plan pour savoir c'est quoi les axes qu'ils aimeraient un peu, mais sans dire exactement les artères qu'ils vont prendre.
Très cool.
Puis, fait que là, ils en ont parlé beaucoup. Puis, le truc que je trouve, en tout cas à l'époque, avant que Montréal sorte son plan vélo 2023-2025, que je vais parler plus tard, c'est que moi, je trouvais qu'avec ce plan-là, Québec allait comme dépasser Montréal. Mais là, c'est comme, je trouve qu'il y a une belle compétition, genre. Une saine compétition entre les deux grandes villes, la deuxième métropole, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai... En tout cas. Mais ce serait vraiment nice parce qu'en fait, eux, avec leur tramway, ils mettent vraiment l'accent sur l'intermodalité, ce que Montréal n'a pas fait parce que
c'est quoi l'intermodalité?
L'intermodalité, c'est vraiment comme de se dire « Ah, j'ai un char, je m'en vais jusqu'à une station de métro, je laisse mon char là, puis je prends le métro, puis peut-être le Bixi pour des déplacements au centre-ville. » Fait que tu prends trois types
de transport.
Fait que tu fais un transfert modal, fait que intermodalité. Fait que eux, ils viseront là-dessus, tu sais, prendre le vélo dans un des bus ou prendre le vélo dans le tramway ou le laisser à une station de tramway, avoir des connexions entre le tramway puis des pistes cyclables. Vraiment, ils pensent à ça avant de faire le tramway, tu sais. Fait que tout va être connecté. Tous les modes de transport sont connectés puis il y a une sensibilité par rapport à ça. À Montréal, on est déjà le métro. Puis ça, on peut mailler avec le métro, mais c'est pas un des buts exactement. C'est juste faire le plus de pistes cyclables possible, ce qui est quand même cool. Mais c'est pas mal ça. Mais un des trucs que j'ai vraiment appris là-bas, j'ai aussi parlé d'un principe du colloque, mais en fait deux, mais un en particulier qui s'appelle la perméabilité filtrée.
C'est quoi ça?
Ouais, c'est quoi ça?
La perméabilité filtrée. Okay.
Dans le fond, c'est... En gros, c'est de savoir... En fait, en gros, c'est de faire en sorte que certains modes de déplacement aient plus d'options que d'autres.
OK.
Puis, si on compare les vélos avec les automobilistes, c'est que laisser moins d'options aux automobilistes qu'aux cyclistes pour avantager le déplacement des cyclistes. Fait que c'est un peu ce qui s'est passé dans le plateau. Si jamais tu dis « Ah, tu fais un sens unique », puis à un certain moment, sens unique, ben, t'as un cul-de-sac. Là, il faut que tu fasses un tour. C'est-à-dire que ça va être moins direct. Puis si tu fais un sens unique, puis à la fin, mettons, t'arrives sur Saint-Joseph, qui est une grande artère à Montréal, ben, la voiture peut pas passer tout droit, mais le cycliste, oui. Ben, tu vas avoir un avantage au cycliste pour pouvoir pas faire de détours. Fait que dans le fond, c'est de mettre des détours intentionnels aux automobilistes.
Pour rendre, en fait, le transport en automobile...
Plus chiant.
Moins efficace.
Efficace. Parce que, veux pas, oui, tu peux toujours améliorer toutes les pistes cyclables du monde, mais si tu as en fait, ce que ça révèle, la perméabilité, c'est que tu as une compétition dans tous les modes. Puis pour avoir un maximum des autres, ben, tu vas quand même avoir une saturation. Fait qu'il faut que tu diminues la capacité ou encore... l'efficacité des autres modes comme la voiture. Surtout dans les centres-villes puis dans les villes à assez forte densité parce qu'on n'a pas vraiment besoin de la voiture. Puis l'autre petit théorème que j'aimerais parler, c'est le Down-Thompson paradoxe que peut-être...
Down-Thompson.
C'est deux personnes. C'est les deux qui l'ont créé un peu. C'est, ça parle du fait que le transit public... est aussi bon que le temps qu'on gagne par rapport à la voiture. Ce qui veut dire que, comme je disais, tous les modes de transport sont en compétition. Puis quelqu'un ne veut pas prendre le transport en commun, c'est ici que ça va prendre plus de temps que la voiture.
Ouais.
Puis ça coûte plus cher. Fait que ça veut dire, entre guillemets, qu'il faut créer des voies réservées au transport en commun.
Ou avantager le transport en commun par rapport à...
Ou désavantager. Les automobilistes. Fait que ça, mettons, pour traverser l'île de Montréal, t'as des pistes cyclables sur tous les ponts, mais que t'as des péages pour des automobilistes, ben les gens vont peut-être considérer prendre le vélo rendu là. Ou le transport en commun.
Tu sais, là, tranquillement, là, depuis qu'on a commencé le podcast, la dernière fois que t'es venu, t'étais assez plus dire comme le vivre ensemble, c'est possible. Mais là, aujourd'hui, tu as l'air d'être plus un peu de comme non. Là, on va, je pense que les autres modes de transport doivent être mis au-dessus du transport en automobile. Il est temps de peut-être s'attaquer, confronter, critiquer de façon ouvertement le transport automobile individuel. Est-ce que c'est un peu ça?
C'est des termes assez forts, attaquer et tout. Mais ce que je veux dire, c'est faire prendre conscience.
Ouais.
D'abord, faire prendre conscience que... Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'habite centre-sud. Ouais. Puis la petite Maria, c'est à deux coins de rue de chez nous. Ça m'a bouleversé. Puis savez-vous ce qui m'a le plus bouleversé? C'est que la personne qui est un père de famille a pris la fuite.
Ouais.
Donc, moi, j'ai fait mon cours de secourisme récemment, puis on me dit, quand il y a quelqu'un qui est en danger, dans la loi, mais aussi dans le common sense, dans le sens commun, tu te dois de la sauver.
Mm-hmm.
Mais l'automobiliste, c'est dit qu'il pouvait se permettre de pas rester puis s'enfuir. Puis c'est pas... il est pas le seul. C'est un truc qui arrive de plus en plus. Puis je veux bien... Je suis quand même assez... Bon, on se connaît, là, mais je suis quand même assez ouvert puis conscient. Puis, tu sais, genre, j'ai quand même une bonne assomption de tout le monde puis je donne mm-hmm. des chances. Mais quand des choses comme ça arrivent... Puis après ça, il y a aussi... une personne à Amqui qui est foncée sur des piétons.
Non, mais ça, c'est
vraiment autre chose. Je sais. Mais après ça, on se demande genre, hey, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout le monde à un pick-up? Est-ce qu'on a toujours besoin de ci? Mm-hmm. Puis c'est ça que je veux remettre en question. Je veux faire prendre conscience. C'est quoi nos réels besoins, en fait?
Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut se passer de notre voiture?
Mm-hmm.
Puis donner des conseils sur... le vélo puis des choses comme ça, je trouve que c'est un bon moyen.
Mm-hmm.
Mais il faut aussi faire en sorte que nos villes changent. Puis des concepts comme la perméabilité filtrée, ben c'est des choses qui vont progressivement arriver. Puis quand les gens vont devoir y faire face parce qu'on va bloquer une rue, on va faire des changements,
mm-hmm.
ben maintenant que j'en parle, les gens vont peut-être moins se braquer.
Ouais.
Quand ça va arriver. C'est sûr que c'est dérangeant, puis c'est sûr que mes propos sont... c'est pro-changement,
mm-hmm.
mais le changement arrive.
Ouais.
Qu'on le veuille ou pas, que ce soit le changement climatique ou le changement qu'on essaye de faire pour pouvoir y survivre, y résister, être résilient, c'est les deux vont arriver.
C'est pas évident, mais c'est possible. Je pense que le plateau Montréal à Montréal est un bon exemple. Ferrandez a transformer le plateau Mont-Royal,
ouais.
attaquer de front, par exemple, le déplacement automobile dans son quartier. C'est fait extrêmement critiquer, surtout à l'extérieur. Mais la réalité, c'est que Ferrandez, ancien maire du plateau, était élu à l'époque avec des taux les plus élevés sur la ville de Montréal. Et la réalité, c'est que le plateau Mont-Royal est sûrement le quartier où il fait le mieux vivre à Montréal. Et c'est aussi le quartier où, justement, c'est presque impossible de trouver un appartement parce que c'est devenu le quartier le plus confortable de Montréal.
Exactement.
Donc, voilà, c'est ça. Mais il faut avancer, Julien. Toi, est-ce que tu as fait d'autres pratiques que tu voulais me parler, peut-être, ailleurs de Montréal avant qu'on tombe sur Montréal?
Non, ce serait Montréal le prochain.
Parfait. Là, tantôt, par exemple, tu as un peu parlé de Québec. Là, je me retourne vers Thomas là, qui me regarde. Thomas, est-ce qu'à Québec, tu roulais en vélo, toi? Parce que je sais qu'à Montréal, tu es avec un vélo, là, mais est-ce qu'à Québec, tu étais en vélo?
Alors, mes parents étaient séparés quand je vivais à Québec. Je vivais chez mes parents. Mon père vivait dans les banlieues plus éloignées du centre, donc le vélo était pas mal moins possible quand j'étais chez mon père, mais je faisais deux semaines. Chez ma mère, je me promenais constamment en vélo ou en planche parce que je vivais dans le centre-ville. Puis, mais chez mon père, le vélo, c'était un peu moins possible. Tu vois, mes frères sont rendus à l'âge où ils ont des voitures aussi, puis ils sont à Beauport. Puis c'est possible d'avoir un vélo si t'es à Beauport, puis tu vas à Beauport, mais c'était... Si t'as besoin de sortir, t'sais, ils vont à l'école au centre-ville, ils vont à l'école à Charlebourg. Ils travaillent plus loin, donc c'est pas mal moins quelque chose de possible, comme mm-hmm. quelqu'un pourrait vivre à Longueuil et venir à Montréal en vélo pour travailler. Dès que tu sors du 5 km² à Québec, ça devient pas mal moins possible, là, malheureusement.
C'est souvent les choses qui arrivent dans plusieurs villes.
Il y a du chemin à faire.
Ouais.
Merci de ton intervention, Thomas.
Merci du témoignage.
Je voulais que tu parles un peu, là, parce que des fois, on est très montréalocentriste. Déjà, on était déjà, puis on va le devenir de plus en plus, parce que là, on va parler des projets futurs Pisciclab à Montréal.
Ouais, dans le fond, ça s'en vient. Il faut le dire. La première année, ça a brassé fort. La première année, Projet Montréal, en 2017-2018, il y a eu une préparation. En 2019, il y a eu la création des rêves qui ont été implantés en 2019-2020. Il y a eu un gros bike lash, avec un retour de vague des vélos, genre.
Donc, backlash, mais backlash, ouais, c'est ce qu'on dit. Donc, en gros, comme il a été expliqué dans le dernier épisode sur l'humour et la liberté d'expression par Sofiane, donc le backlash, en gros, c'est quand il y a une avancée sociale.
Uh-huh.
Mais en fait, les gens qui ont comme un peu perdu dans cette avancée sociale, ils réattaquent. Il y a comme une contre-attaque. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé à Montréal. En fait, il y a eu beaucoup d'avancées pour les cyclistes. Les gens qui sont pas d'accord avec ce type d'infrastructure-là, ont comme réagi.
C'est ça. Puis là, 2021-2022, c'était des vaches maigres où il y a eu des petits projets qui ont été quand même salués. Mais là, la ville de Montréal a changé un peu leur stratégie pour vraiment accommoder beaucoup les gens qui sont un peu contre les pistes cyclables. Ils ont proposé le plan vélo ou la vision vélo 2023-2027, qui permet vraiment aux personnes de se dire « OK, ça arrive ». Puis ils vont pouvoir critiquer, puis ils vont vraiment avoir plus de consultations, plus de gens vont pouvoir participer. Puis s'ils ont des idées, ils vont être vraiment mieux accueillis en ce moment-là, puis c'est vraiment mieux fait. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça va être 200 km de piste cyclable selon les meilleures pratiques, fait que souvent bidirectionnel, comme j'avais dit la dernière fois, c'est dans le fond, chaque côté de la rue, proche du trottoir, il va avoir un sens de chaque côté de la rue. Fait qu'un sens vers le nord, par exemple, un sens vers le sud. Au lieu de
la piste cyclable juste d'un bord, des deux bords.
Avec une possibilité de
se rentrer
de collision.
Dedans, c'est moins pratique pour changer, pour tourner.
Ouais. Fait que ça va être beaucoup plus de chaque côté de la rue. Puis c'est... C'est 200 km, mais ce qu'il faut vraiment féliciter avec la ville de Montréal, là, qui ont eu beaucoup de crans, c'est sûr, c'est 200 km sur 5 ans, puis il faut qu'ils fassent, et on va être là pour leur dire, mais c'est qu'il y a une équité territoriale. Sur les 19 arrondissements, tu en as 17 qui vont être touchés là-dedans. Puis ça va autant dans le West Island que dans l'est de l'île, dans le nord, puis ils vont faire. Puis c'est sûr qu'il va y avoir 2-3 petits artères qui vont faire des touch-ups, là, mais il y a aussi 4 grandes artères qui vont faire. Une qui a déjà été, qui vont déjà faire cette année, qui est Christophe Colomb de Gouin.
D'ailleurs, tu m'as envoyé une photo, je vais la mettre sur Instagram si vous voulez. Maintenant, de plus en plus, je mets des supports visuels pour nos podcasts.
Ouais,
merci. Pour les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train qui écoutent notre podcast en faisant de la cuisine, en faisant du sport ou en marchant. Je suis désolé, on devient un podcast. Les gens ne peuvent pas nous voir. On n'est pas filmé, mais on a du support visuel. On est comme des PowerPoint. Mais bref, c'est sur Instagram.
Mais ceux qui se suivent plus Montréal et connaissent les grandes artères, je vais les nommer puis ils vont quand même pouvoir se reconnaître. Mais Christophe Colomb, c'est une bonne artère, là. Après ça, tu vas avoir l'Accordaire, un peu plus dans l'est, nord-sud, qui va aller de, je pense, Hochelaga à Gouin. Où est-ce que la rivière des Prairies, c'est la fin de l'île.
Ouais.
Puis la plus grosse qui va être faite, là, les deux plus grosses qui vont être faites S-Ouest, c'est Henri Bourassa qui est énorme, qui vont aussi faire une voie réservée pour bus.
Ça, c'est cool, Henri Bourassa.
Parce que Henri Bourassa, c'est 4 voies chaque bord.
C'est une autoroute, Henri Bourassa.
C'est une autoroute. Traverser ça, c'est mortel.
Ouais. OK, donc il va avoir une piste cyclable de chaque bord.
Ouais. Puis la dernière, et non la moindre, que moi, je suis avec... parce que ça va être la colonne vertébrale du centre de l'île. C'est Jean Talon de bord en bord.
Wow! Ça, c'est vraiment des gros... Mais c'est vraiment... tu sais, moi, je vois ça, c'est vraiment cool. Jean Talon aussi, je savais pas Jean Talon.
Ouais, ça, c'est... Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas dit quand ils allaient le faire, mais ça devrait être dans les 5 prochaines années. C'est pas mal ça qui s'en vient. Puis, c'est ça. Fait que le dernier truc que je veux redire encore, c'est la DCPG, en fait, la Direction de santé publique de l'île de Montréal avait fait un document qui disait il faut plus être proche des écoles, puis il faut avoir des pistes cyclables partout dans l'île pour les populations plus défavorisées. C'est ce que la ville fait, puis a été reproché d'être trop plateau-centriste, mettons, ou des quartiers centraux. Puis là, ça va être fait partout sur l'île. Fait que c'est vraiment à applaudir. Est-ce qu'ils vont le faire? J'espère bien. Ils ont mis plus d'argent. Ça va être fait.
C'est lancé.
C'est lancé, on va suivre ça.
C'est le plan vélo 2023-2027.
Ouais, vision vélo.
Vision vélo 2023-2027.
Ouais,
oh,
on va mettre
cool.
La carte.
Ouais, la carte, c'est sur Instagram, les gens le voient. Mais c'est très cool. Moi, j'ai vu la carte, c'est vraiment trippant. Moi, je trouve parce que c'est proche de Rond-Point, mais la Jean Talon, là, c'est, on était dû pour... Puis Henri Bourassa pour Montréal-Nord, que je connais quand même un peu, c'est quand même vraiment cool, ça. Parce que c'est vrai que c'est un coin, tu l'as un peu dit, mortel pour les vélos. C'est genre, j'ai, je peux pas rouler, tu peux, mais c'est dangereux. Les gens, c'est vraiment...
Si je peux me permettre aussi, c'est que les arrondissements vont aussi avoir des projets plus... sur l'arrondissement, fait que c'est pas, ça sera pas les seuls projets qu'il va avoir.
Mais ça permet d'avoir une structure aussi globale, comme des un peu comme la Saint-Denis est devenue une autoroute où tu peux faire de bord en bord.
Exactement.
Montréal, puis ça c'est il y a juste un coin là dans le vieux port, c'est terrible.
Ils vont le faire.
Ouais, mais j'espère.
Ils vont le faire. C'est aller voir la liste.
Canal La Chine puis centre-ville, ça serait nice.
C'est, ils vont faire, je pense c'est un peu Canal La Chine jusqu'à Berry.
Ouais, c'est ça.
Ils vont faire quelque chose.
Parfait. Ben, merci.
Dans les 5 prochaines années.
Parfait. Merci de me rassurer là-dessus. Maintenant, dernier point avant la conclusion, association et projet militant, parce que Julien est avant tout un militant. Puis je voulais que tu me parles de deux choses. Et le premier, et non le moindre, c'est la cavalcade.
Ouais.
Qui est un projet que toi-même t'as monté.
Ouais.
Explique-moi c'est quoi la cavalcade.
Là, je prêche pour ma paroisse, là, fait que je suis un peu gêné. Mais, OK. C'est vraiment simple, mais c'est d'abord juste une ride de vélo en plusieurs jours, interurbaine entre deux villes, avec des revendications. Mm-hmm. Pourquoi j'ai instigé ça l'année passée? Ben, on était en campagne électorale, puis là, je voulais vraiment amener le vélo dans la campagne électorale. Fait qu'on l'a fait le 3, 4, 5 septembre de l'année dernière, en 2022, durant le congé du travail. Puis ça a bien marché. On était environ 30-35 à faire Montréal-Québec.
Mm-hmm.
T'es arrivé à Québec devant l'Assemblée nationale. Environ, on a fait une petite masse critique. J'expliquerai plus tard c'est quoi. Puis on a fait une petite balade à l'intérieur de la ville pour arriver jusqu'au à l'Assemblée. On a même laissé un vélo avec la cavalcade, notre logo cavalcade à Québec en guise de rappel. Puis ça s'est bien passé, on a eu du beau temps, on a campé à Louisville puis à Donnacona, puis on est revenu en bus, puis c'est ça, je suis vraiment content de ce truc-là. On avait plusieurs revendications, dont un plan vélo de 500 millions de dollars par année.
Mm-hmm.
On l'attend toujours. Mais il y a rien qui va être fait genre du jour au lendemain, mais si on amène ça dans le débat public, je trouve que c'est déjà un bon point. Une piste utilitaire de type route verte, mais Montréal-Québec sur la rive nord. C'est comme qu'on a fait, mais pas c'est dédié au vélo.
Mm-hmm.
Les stops Idaho à l'américaine, c'est comme tu ralentis, tu t'arrêtes pas, mais tu continues un peu. Pourquoi? Parce que beaucoup d'inertie puis de momentum avec les vélos. Puis c'est moins dangereux qu'une auto. Puis on a beaucoup plus de visibilité. Fait que c'est...
En fait, vous voulez militer pour avoir le droit de faire ce stop-là.
Dans le code de la sécurité routière.
Mm-hmm.
Puis le dernier, non la moindre, on milite aussi pour que toutes les grandes moyennes villes du Québec soient accessibles en bus. Puis les grandes villes peut-être en train. Pourquoi? Parce que quand t'es à vélo en ville, c'est nice, mais si tu veux voir tes cousins, tes cousines qui sont éloignés, ben t'as pas vraiment d'option. Ça, c'est pas... Si tu veux pas payer genre 400$ un aller pour aller à Saguenay, je pense qu'elle disait Camille, ou...
Je me rappelle plus, mais moi, c'est un peu le sujet de ce podcast-là sur le transport en commun. Puis en fait, Camille, qu'est-ce qu'elle disait, qu'est-ce qu'elle montrait, c'est ça. Les transports un peu interrégionaux,
mm-hmm.
ben, ils sont extrêmement mal faits, extrêmement coûteux.
Mais allez écouter cet épisode-là, vraiment bien fait.
Donc, moindrement, tu veux te déplacer d'une ville à l'autre ou d'une région à l'autre, ça se fait très mal. Et c'est très dommage, puisque encore là, ça nous rend complètement dépendants de l'automobile.
Puis si je peux finir pour faire un petit peu de pouce sur Cavalcade 2.
Mm-hmm.
Qui va être la première, ça s'appelait Cavalcade deux roues, un avenir.
Oui.
Le sous-titre, là, ça va être de petite à grande roue.
Mm-hmm.
Puis on va sûrement faire, on ne sait pas encore où on va décider ça bientôt, mais on sait que ça va être encore le 2, 3, 4 septembre prochain durant la fête du travail. Puis on va faire 3 jours plus petite distance. Fait qu'on veut vraiment inviter tout le monde. Des enfants, des ados, tout le monde qui ont peut-être moins un vélo super performant pour faire des plus petites distances et aller à une ville qui serait plus proche. Puis c'est ça, de petite à grande roue, c'est surtout pour mettre fin à l'insécurité routière autour des écoles. Il y a beaucoup de bruit qui se passe à travers ça avec une autre manifestation nationale par des personnes que je connais. Puis je pense qu'il faut donner du pouce pour permettre à tous les enfants, s'ils veulent, d'aller en transport actif.
Mm-hmm.
Vélo, rollerblade,
mm-hmm.
trottinette,
mm-hmm.
roulis-roulant,
mm-hmm.
Longboard.
Mm-hmm.
C'est primordial pour moi.
Oui. Ouais, parfait. Donc la cavalcade, est-ce que tu as une page Facebook ou un...
Ouais, on va mettre une description
on va mettre le lien pour les gens qui veulent suivre ce beau projet-là, qui veut un peu ça, qui veut un peu un regroupement ou une politique peut-être annuelle ou faire de la pression sur certains enjeux touchant les vélos. Puis ça, je pense que c'est un peu ton point aussi que ça soit pas juste montréalais,
c'est non, c'est un peu ça. En fait, dans les années futures, je veux vraiment que ça soit des points qui sont plus provinciales. Changer des lois provinciales. Parce que souvent, ça bloque au MTQ.
Mm-hmm. Ministère de Transport du Québec.
Oui, qui ont changé avec le ministère de Transport et Développement Durable, mais on ne croit pas trop encore. Puis c'est vraiment... je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais souvent, tu as des fins de non-recevoir.
Mm-hmm.
C'est vraiment frustrant. Parce que tu veux changer quelque chose sur l'île de Montréal, mais cette route-là appartient au MTQ. Puis là, tu es comme, ben... Il n'y a plus rien à faire. Faut que... Puis on veut que ça change.
Parfait. Donc, la pression plus au niveau provincial. Ouais. Et là, je voulais aussi nous parler des masses critiques.
Ah oui.
C'est quoi un masse critique?
Une masse critique?
Qui est vraiment pas un phénomène unique au Québec ou à Montréal.
C'est non, c'est international. Ouais. C'est vraiment international. Puis n'importe
C'est-tu
qui.
C'est-tu l'origine?
Oui. Oui, je vais vous en parler.
Parfait. On dégoûte.
L'enfant, je vais dire ce que c'est, puis l'origine après. C'est l'enfant, une manifestation, une balade manifestive dans une ville qui réunit des cyclistes ou encore des personnes en toute leur mobilité. Puis l'idée, c'est vraiment de juste prendre la rue. Puis habituellement, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on se réunit à une certaine heure, le dernier vendredi du mois, tous les derniers vendredis du mois.
Mm-hmm.
Puis on se met à rouler. C'est tout. C'est juste une balade manifestive. Puis pour les origines, ça s'est commencé en 92 à San Francisco. Des gens qui étaient... San Francisco, c'était quand même assez difficile de rouler à vélo. Puis ils voulaient en faire des balades communes pour se rendre au travail ou à certains endroits. Puis ils ont commencé à faire ça. Puis finalement, c'est dessiné comme en balade masse critique. Puis ils ont appelé ça parce que en fait, en Chine, ils ont remarqué que quand tu arrivais à une intersection, souvent tu n'avais aucune lumière. Puis pour que les cyclistes puissent traverser, mais ils attendaient qu'il y ait une certaine accumulation. Puis à un certain moment, tu avais une masse critique. Puis le véhicule... qui allait en, mettons, perpendiculaire ou à côté, ben, il s'arrêtait parce que la masse était plus grande que lui.
Mmh.
Fait que le véhicule n'avait pas le choix de laisser passer tous les cyclistes. Puis là, ça, il n'y en avait plus, fait que lui, il passait. Puis il y a un autre cycliste qui arrivait, il s'accumule, un deuxième, un troisième, puis il y en a une masse, puis là, ils passent tous ensemble.
Ah.
Fait que c'est de là que ça vient.
Ah!
Ah.
Tu vois, ça, je ne connaissais pas l'origine du nom de même. Donc, OK. Donc, ça, c'est une fois par mois, dernier vendredi du mois.
Fait que le prochain, ça va être le 31 mars. Fait que,
à Montréal, oui.
En fait, non, ça va être diffusé un peu plus tard. Fait que ça va être... La dernière qui a eu lieu, c'est le 31 mars. Puis le prochain, je pense, ça va être le 28 avril.
Mm-hmm.
Puis le 31 mars, ça va faire un an que la masse critique va avoir eu lieu parce qu'elle vient, puis elle s'en va parfois à cause de l'hiver. Mais là, on la tient. On l'a tenue tout l'hiver. Okay. C'est bien passé. Puis on est jusqu'à plus de 150 cyclistes en octobre dernier à l'Halloween. Okay. Puis on espère faire grandir le mouvement. C'est vraiment très... familial, ludique. Il y a de la musique. On a un vélo pouce avec un DJ qui mixe.
Okay.
Tu peux faire ta pancarte un peu avant de partir. C'est ça, on s'amuse. Il y a des gens aussi qui font des wheelies parce que la route est assez large. Puis c'est ça.
Okay.
C'est vraiment le fun.
Ah, bon, ben, fait les masses critiques à Montréal qui sont faits pour mettre de la pression. Écoute, Julien, est-ce que tu avais un dernier point avant que tu nous donnes des petits conseils mécaniques?
Ouais, dans le fond, je vais parler aussi d'un autre organisme qui s'appelle Vélorussion. Puis je tiens à dire que là, je te parle de trois choses, mais c'est vraiment trois choses qui ont été créées dans la dernière année depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Fait que je veux dire que la Vélorussion est en mouvement. T'sais, en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives. Puis la dernière est quand même un peu particulière à mon sens, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ça s'appelle Vélorussion. Alors, ça part vraiment comme... de ça, mais en fait c'est aussi c'est un organisme avec des militants qui visent à faire des actions politiques colorées pour démontrer un peu l'absurdité du système tout à l'auto. Mm-hmm. Ça rend vraiment hommage à, en fait, un ancien organisme qui s'appelle Le Monde à bicyclette, qui avait une cyclo-frustration, puis faisait des actions poético-vélorutionnaires, aussi des cyclodramas, comme des sit-in, des die-in, mais parfois il faisait aussi d'autres actions un peu colorées au salon de l'auto, où est-ce qu'il mourait devant les autos, des trucs comme ça. Puis fait que là, on essaie de reprendre un peu ce moment ludique, puis de faire pousser ça en immédiat pour voir, ouais, mais dans le fond, la voiture, c'est un peu absurde, t'sais. 95% du temps est stationnée, pourquoi on aurait encore besoin de la garder si tu l'utilises pas tant que ça, des trucs comme ça. Fait qu'une des choses qu'on a vu montrer l'absurdité, c'est que souvent, les gens se stationnent juste 2 minutes dans des bandes cyclables, puis bloque la piste cyclable, puis pense qu'il n'y en aura pas, parce que, comme j'ai dit dans un des mythes, ben, il n'y a personne à piste cyclable. Puis là, nous, on dit, ben non, il y a du monde. Fait qu'on est arrivé dans une piste cyclable sur la rue McGill. En fait, c'est une bande cyclable. Puis les gens stationnent beaucoup. Juste 2 minutes. Fait qu'on bloquait la voie. En tout cas, des gens bloquaient la voie pour faire passer les cyclistes. Puis comme ça, ça crée un corridor sécuritaire. Mm-hmm. Puis là, on leur donnait aussi un petit flyers pour leur dire c'est quoi notre action. Parce que c'est ça, souvent, les gens prennent... c'est une des doléances que j'ai, c'est comme les cyclistes, ils sont juste là, c'est familial, ils sont comme un peu à part, il y a comme pas vraiment... ils font ce qu'ils veulent, mais c'est comme si on a un demi-statut, on sait pas trop, c'est vague. Mm-hmm. Mais c'est extrêmement dangereux pour la vie d'un cycliste d'aller dans... T'es protégé, puis d'un coup, ben il faut que t'ailles dans la voie... Ça, si on essaie de faire respecter le peu qu'on a. C'est pas parce qu'on a une piste cyclable que ça va être respecté.
Donc la Vélorution, c'est comme un regroupement
poético-militant. Poético-militant.
Ouais. Pour qui défend les droits des cyclistes.
Exactement.
Ok. Très cool. Okay. On va mettre tous les liens d'ailleurs de ces trucs-là dans le podcast pour que les gens aillent voir.
Il va y avoir un paquet de liens.
S'ils veulent s'impliquer là-dedans, dans tout ça, puis ils vont sûrement te rencontrer dans ce beau projet-là. Ben parfait. Alors, maintenant, allons-y à la conclusion, Julien.
Ouais.
La dernière fois que tu es venu, on était juste avant l'hiver, donc tu nous avais donné des mini-conseils pour l'hiver, des mini-conseils mécaniques.
Ouais.
Mais là, on est au printemps, justement. Donc là, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sortent leur vélo.
Ouais, ça va être nice.
Pour le printemps. Donc, absolument, ces gens-là font un peu une mise au point.
Ouais.
Moi tu vois, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai pas fait de mise en point. J'ai juste checké mes pneus, ils étaient encore un peu gonflés, puis je suis parti. Tu connais mon vélo, moi, je roule avec un vélo assez simple. Donc, non, mais c'est pas vrai, j'ai quand même regardé mes freins et tout. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon de fonctionner.
Ben, écoute, c'est pas si pire, là. Il y a pas 1000 façons de fonctionner non plus. Parfois, c'est juste... Mais j'avoue que plus tu entretiens, moins tu vas avoir de problèmes dans le futur. Alors, un des premiers trucs que je peux dire, c'est juste parfois juste laver son vélo. Mm-hmm. Puis s'assurer, puis quand tu laves, tu vois un peu les pièces qui sont bien fixées, qui ont tout est là, puis qu'il manque rien. Mm-hmm. Puis le deuxième truc, si vous avez de l'huile à chaîne, c'est de huiler sa chaîne. Souvent, c'est ce qui s'évapore, en fait. C'est pas juste avec l'utilisation, mais avec le temps, ça s'évapore puis ça sèche. Mm-hmm. Puis ça permet une meilleure utilisation de la chaîne. Elle va briser moins rapidement, puis on va devoir la changer moins rapidement. Sinon, je donne un autre truc qui est peut-être pas juste... mais c'est un peu pour tout le temps. C'est parfois, on retourne sur son vélo puis on se dit « Hey, mon Dieu, ça me fait mal au poignet. » Puis avec la saison, mais on s'habitue. Mais parfois, pour le positionnement ou pour la grandeur du vélo, essayez de faire le truc suivant. Avoir 3 doigts entre son entrejambe puis la barre la plus haute du vélo. C'est ce qui permet de savoir si t'as quand même une bonne distance pour... une bonne taille en fait de ton vélo. C'est un truc.
En train de dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne taille de vélo pour
eux. C'est ça pour eux. Parfois, t'as pas le choix, puis tu peux faire des petits ajustements. Tu sais, si t'as un doigt, c'est pas si pire. Si t'en as 5, c'est pas si pire.
Donc là, c'est le truc, c'est t'as donc la grande barre un peu horizontale là, en haut du cadre.
Ouais.
C'est avoir 3 doigts.
Ouais.
Entre ça et l'entrejambe.
Et l'entrejambe.
OK.
Puis, si vous n'avez pas une barre horizontale, c'est pas si grave non plus, mais la plupart des vélos ont une barre horizontale. Puis, le dernier truc, c'est gonfler ses pneus. Je vais dire un peu un truc pour savoir s'il y a assez d'air. Ouais. Si vous avez une pompe, souvent, il va y avoir un truc pour savoir combien il y a d'air. Puis il y a soit les PSI. Puis les PSI, ça va de 30 à 100 en général. Mm-hmm. T'en as un peu plus haut, mais c'est rare. Plus ton pneu est gros, plus que le nombre de PSI va être bas. Plus ton pneu est fin, plus le nombre de PSI va être élevé, vers 100 environ. Puis le truc, c'est d'essayer de voir sur le flanc du pneu, il va être écrit le nombre de PSI, ou parfois c'est en nombre de bars. Mm-hmm. Les bars, ça va de 0 à 6. Mm-hmm. 6 qui équivaut un peu à 100 environ. Mm-hmm. Puis si vous ne pouvez pas voir sur le côté le nombre de PSI ou de bars, essayez juste d'appuyer le plus fort possible avec votre pouce sur votre pneu. Mm-hmm. Puis si ça renfonce, ça veut dire que vous pouvez encore mettre de l'air. C'est approximatif, mais c'est pas... Puis ça peut... C'est très variable. S'ils disent 100 PSI, vous pouvez mettre 80. Il n'y a pas 30 problèmes, parce que à un certain point, si vous mettez 30, vous pouvez avoir plus souvent des crevaisons.
Crevaisons par pincement.
Ouais.
Mais question, admettons, sur mon vélo, là, exemple, c'est de 90 à 120. Je dois-tu le mettre à plus proche de 120 ou plus proche de 90?
Là, ça dépend de toi, Paul, ou de chaque personne. Quand tu mets moins, tu vas avoir plus de confort. Quand tu pognes une bosse ou un nid de poule, ça va comme être moins rude. Si tu mets plus d'air dans ton pneu, tu vas avoir plus d'efficacité, fait que tu vas aller plus vite. Qu'est-ce que t'aimes, Paul? Confort ou vitesse?
Un mélange des deux.
Ben, mélange les deux.
Parfait, OK, good. Mais parfait, ben alors est-ce que tes petits trucs, donc, on met de l'huile sur la chaîne, on nettoie notre vélo, on gonfle nos pneus, puis on regarde si le vélo est bien ajusté.
Ouais.
Est-ce que c'est essentiel d'aller de commencer l'année en allant voir la mécanique de vélo?
Écoutez, vous connaissez mieux votre vélo que n'importe qui, mais même si vous ne savez pas exactement la mécanique ou qu'est-ce qui se passe, souvent vous allez faire comme « Ah, oh, il me semble que j'ai un bruit que j'entendais pas avant. Ah, il me semble que les changements de vitesse, ça passe mal. Ah, mon frein, il faut que j'appuie au complet avant que ça freine. C'est des petits changements qui font parfois comme « Ah, ben il faudrait que j'aille au magasin de vélo faire des petites mises au point. » Une mise au point, absolument, je peux conseiller une fois par année. La de base, c'est 35 à 45 $, puis la maximale, c'est comme 100 $. La maximale, peut-être aux 3 ans. Là. Mais si vous voulez vraiment juste avoir des conseils, parfois, ce que je vous conseille, c'est de... conseil. C'est d'aller... il va y avoir la porte ouverte des ateliers de vélo communautaire. Qu'on va aussi mettre en lien, du 22 au 28 mai prochain. Puis souvent, les ateliers, comment ça fonctionne, c'est que tu arrives avec ton vélo, tu as des bénévoles, tu as tous les outils, tu as certaines pièces en vente, souvent en vente cash. Puis ils vont vous donner les conseils, ils vont faire une attestation gratuite. Puis après ça, ben, si vous voulez faire la réparation vous-même, vous pouvez faire sur place. Puis après ça, si vous voulez faire des réparations par un autre professionnel, ben vous pouvez aller au professionnel, vous allez savoir qu'est-ce qu'il y a, j'allais dire sous votre capot, mais même pas besoin de capot. C'est facile, le vélo.
Ben oui, c'est simple. Ben oui. Est-ce que tu avais des dernières choses à nous dire? Là, tu nous as un peu parlé des...
Juste dire comme, il y a des moments dans ma vie, tout c'est personnel, que je me sentais un peu morose, puis un peu mal. Puis quand je pédale, ben étrangement, ça s'efface. Puis ça fait du bien de pédaler. Fait que peu importe pourquoi vous pédalez ou pourquoi vous rendrez un point A, un point B, je conseille juste d'y aller à votre rythme, à votre façon. Puis si jamais ça vous tente de vous impliquer, mais il va y avoir plein de liens à la fin de...
On va tout mettre les liens dans le podcast. Hey, Julien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Ah non, mais c'est tout un plaisir pour moi parce qu'en plus... aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre valeureux et gentil animateur Paul Trey. Je voulais le remercier du fond du cœur.
Merci Julien, c'est chaud.
D'être une si belle personne.
Merci. Bonne journée à tous.